journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs. Pour commenter l'actualité, intervenir en direct, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag JDA. Aujourd'hui, c'est la libre antenne du journal des auditeurs. C'est vous qui faites le sommaire, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. On reviendra sur la Syrie avec Serge. On parlera également des questions de terrorisme et des négociations entre le Nigeria et Boko Haram. Mais avant de vous prendre en direct, séance de rattrapage de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Je voudrais simplement donner mon avis par rapport à la situation qui prévaut en République centrafricaine. Mais pour cela, relevez d'abord que la République centrafricaine est bien un État. C'est bien un État si vous constatez de 1960, après le coup d'État de Bokassa jusqu'en 1990, l'institution, l'État centrafricain existait. Il y avait une force de défense. Il y avait la sécurité intérieure et à l'extérieur de nos frontières. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui au kilomètre 5, nous le déplorons tous. Nous le déplorons pour le simple fait que dans aucun État du monde, un État institutionnel, on puisse avoir une zone de non-droit, de non-loi, où les gens, il y a, s'organisent avec leur armée, leur gouvernement, relèvent les impôts, relèvent les taxes, madame. C'est depuis 2013 que les négociations vont. Mais quel est le résultat ? Merci.
Bonjour les Africains, bonjour les Africaines, notamment de France. Nous avons tous pleuré et fait des marches parce que les jeunes sont vendus en Libye. Et actuellement, il y a certains jeunes qui sont rentrés en France, qui sont aux bouches des métros, comme à Port de la Chapelle, Château Rouge. Et on m'a envoyé une vidéo comme quoi ils sont sous le pont de Créteil aussi. Donc, chaque Africain peut parrainer un jeune. Ne le laissons pas mourir comme ça. Et tous les dimanches, moi, je suis au métro Port de la Chapelle pour leur donner ce que je peux, le manger que je peux préparer. Donc, SOS, aidons nos frères, aidons nos sœurs. Merci.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices d'Africa numéro 1. J'appelle aujourd'hui pour féliciter les troupes syriennes d'avoir récupéré le Douma. C'est très bien ça, c'est très bien ça. Et je profite aussi de dire aux Français et à Emmanuel Macron, Macron a été élu par les Français pour la France, mais il n'a pas été élu par les Français pour les Syriens. Donc il faut qu'il fasse beaucoup attention, faut pas qu'il danse la même pas que Sarkozy. Sarkozy a mis la Libye en péril. Donc j'ai dit à Emmanuel Macron, donc il faut qu'il fasse beaucoup attention, faut pas qu'il soit comme un vent en guerre. Donc c'est regrettable ce que les Occidentaux sont en train de faire actuellement dans le monde entier.
Bonjour la sœur Hartmann, bonjour chers auditeurs et animatrices. Animateur et animatrice de l'émission Africa numéro 1. Je lance ce message pour l'opposition togolaise. Le pouvoir de M. Yadema a échoué, qui a tout fait, qui a tenté de dissoudre, si vous voulez bien, de semer le jeu de la zizanie, de se contredire dans l'opposition. Son jeu a échoué. Ce dialogue dont on parle aujourd'hui n'a plus d'importance. Peuple togolais, levez-vous. Peuple togolais, levez-vous une dernière fois. Ceux qui sont morts ne sont pas morts pour rien, ce sont des martyrs. Toutes les îles du Togo, parce que tous les pays d'Afrique francophone ont des yeux braqués sur le Togo, sur l'opposition togolaise. La démocratie marche dans des pays australes d'Afrique, dans des pays anglophones. Ce qui s'est passé au Zimbabwe, même pas un tir, même pas une goutte de sang. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud pour enlever Zuma, même pas un tir. La démocratie, ça marche au Ghana, partout, sauf l'Afrique francophone. Je répète, le peuple togolais vaincra. Au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Merci à notre stagiaire, Mandile Pofou, qui les a sélectionnés aujourd'hui dans le journal des auditeurs. C'est donc la libre antenne, un petit tour du côté du standard pour vous dire qu'on va parler de la Centrafrique, de la RDC, de la Syrie. Mais avant cela, un petit point information à l'attention de la diaspora nigérienne. On va en parler avec Abdoulaye Mariko. Le conseil du Nigérien, des Nigériens de France, hein, le CONIF, organise un atelier d'écriture de projet. Monsieur Mariko, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est le 28 avril prochain. C'est intéressant puisque vous allez accompagner les ressortissants de la diaspora nigérienne dans la rédaction de dossiers pour des projets, c'est ça ?
Tout à fait, c'est cela. Donc, permettez-moi un peu de présenter le CONIF et de restituer le contexte de ce programme. Donc, le CONIF, comme vous l'avez dit, c'est le Conseil des Nigériens de France. Donc, c'est une association loi 1901. Et le CONIF, en fait, est un cadre fédérateur des associations nigériennes en France. Donc, nous comptons aujourd'hui à peu près une quarantaine d'associations membres. Et donc, notre objectif, en tout cas, pour faire court, c'est de rassembler, en tout cas, de rassembler toutes les personnes, toutes les ressources, toutes les compétences et les bonnes volontés pour les mettre au service de notre pays, le Niger, afin de pouvoir créer de la valeur ajoutée ici, dans la diaspora, notamment en France, et aussi sur le terrain au Niger. Donc, ce programme, en fait, c'est un appel à projet que nous avons lancé, que nous avons lancé plus tôt. Donc, l'objectif est de recenser et accompagner les associations, en tout cas porteuses de projets, et les accompagner dans la réalisation de ceci. Cet appel à projet a été lancé dans le cadre du PRA OSIM, donc PRA pour Programme d'appui, et OSIM pour Organisation de solidarité internationale issue de l'immigration. C'est un programme de cofinancement des projets de ces OSIM-là.
Oui, c'est l'État français, on peut le dire, hein, Monsieur Mariko. Bah, l'État français, c'est un peu un raccourci, mais en tout cas, c'est avec l'Association française de développement qui finance aussi des projets. Alors, quand on dit appel à projet, Abdoulaye, c'est appel à projet sur place, au Niger, c'est bien ça ?
Alors, c'est, permettez-moi de le signifier, c'est l'AFD qui finance le projet, certes, mais c'est un programme qui est porté par le Forum, donc qui est le Forum des organisations issues de l'immigration, de solidarité internationale issue de l'immigration. Et c'est un appel à projet qui est destiné aux associations qui sont au Niger, mais aussi aux associations qui sont ici en France.
D'accord. Et donc, ça peut être des projets, ça peut être aussi pour des projets ici en France, alors ?
Oui, ça peut être des projets ici en France, mais qui auront un fort impact, en tout cas, de montrer là-bas au pays.
D'accord, mais, voilà. Ok, voilà. Il y a un impact local.
Le premier objectif de cet appel à projet, c'est de permettre de réaliser des projets qui vont avoir un impact dans les pays d'origine de la diaspora.
C'est très clair. Alors, pour vous aider à rédiger votre appel à projet, si vous êtes un ressortissant de la diaspora nigérienne, l'atelier d'écriture aura lieu le 28 avril 2018 de 11h à 18h à l'ambassade du Niger. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à conifniger@gmail.com. Monsieur Mariko, je mets l'affiche sur la page Facebook de l'émission. Vous retrouverez les contacts pour vous inscrire, les informations pratiques sur cet atelier d'écriture. Et si le projet est intéressant, vous pouvez avoir jusqu'à une subvention jusqu'à 15 000 euros. C'est bien ça, pour financer le projet.
Alors, c'est ça, juste une précision, en fait, par rapport à la nature du projet. Donc, c'est des projets de développement, notamment durable, qui sont visés. Par exemple, le projet peut être des thématiques suivantes: meilleur accès à la santé, notamment pour les femmes et les enfants. C'est vraiment ou accès à l'éducation, en particulier pour la jeune fille. Le projet peut être axé sur l'accès à l'eau potable pour la population, à l'assainissement et à la mise en place d'un environnement amélioré. Par exemple, concernant les déchets, on sait que l'Afrique, un peu partout, il y a un besoin crucial sur ces niveaux-là. Le projet peut être également d'ordre de développement économique. Donc, ça peut être des créations d'entreprises sociales. Voilà.
On entend bien, vous avez dit en début d'émission, M. Marico, des projets à fort impact. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cet atelier d'écriture qui aura lieu le 28 avril. Je rappelle toutes les informations sur notre page Facebook. Si vous êtes une association ressortissante de la diaspora, si vous avez comme ça des annonces à faire, et n'hésitez pas, le JDA est aussi là pour ça. Je vous souhaite une excellente journée, M. Marico. À bientôt. Merci beaucoup. On vous prend tout de suite maintenant pour commenter un peu l'actualité dans l'ordre d'arrivée. C'est Serge qui est arrivé en premier qui veut parler de la Syrie. Serge, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour à vos auditeurs, auditrices Africa numéro 1.
Bonjour Serge.
Stéphanie, aujourd'hui en fait, je vous appelle parce que je suis très très en colère en fait par rapport à la situation en Syrie. Je suis plus précisément en colère contre nos États, c'est-à-dire les États occidentaux, avec la France comme un des pays qui participe à cette guerre atroce qui tue des milliers d'enfants syriens. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis très très énervé parce que qu'est-ce qui se passe en Syrie? C'est-à-dire que l'État français, en fait, mais les dirigeants français nous prennent vraiment pour des cons. Moi, je paye des impôts en France et je suis très énervé que mon argent aille dans cette guerre. Pourquoi ? Parce que cette guerre contribue à tuer des enfants syriens. Parce qu'aujourd'hui, la France soutient des rebelles syriens. Et aujourd'hui, on vient nous faire croire que l'armée qu'on appelle tantôt quand ça leur arrange, hein, tantôt c'est l'armée d'Assad, tantôt c'est l'armée du régime, on dit jamais l'armée gouvernementale, alors que c'est un État.
L'armée est rarement gouvernementale, Serge. Ouais, on entend bien. Donc c'est pas Macron qui a engagé la France dans cette guerre, j'étais en train de vérifier l'engagement.
Non, c'est pas Macron, mais il continue l'erreur qu'a commise les autres dirigeants, c'est-à-dire les anciens présidents, à savoir Hollande. Moi, je vous explique ce qui se passe. En fait, je vous explique, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie, moi, je suis l'actualité, dans le monde. Et je me rends compte que les médias occidentaux nous mentent en longueur de journée. Parce que regardez ce qui se passe à la Ghouta. Aujourd'hui, on nous parle que du régime, alors qu'il y a des rebelles. On nous parle d'un bombardement qui a eu lieu et dont on aurait utilisé des armes chimiques. Mais on ne sait même pas, aujourd'hui, il n'y a même pas eu d'enquête, mais la France, les États-Unis, l'Angleterre vous disent déjà qu'ils savent qui l'a fait. Ça veut dire qu'ils sont partie prenante en Syrie, ça veut dire qu'ils participent, puisqu'ils n'y sont pas. À moins qu'ils aient des observateurs, comme ils le disent.
Alors, selon Emmanuel Macron, il a eu cette déclaration, il a dit « Nous avons obtenu des informations qui ont montré qu'il y avait bien eu utilisation d'armes chimiques et que de manière évidente, l'attribution pouvait en être faite au régime, en effet. » Et cela dit, alors pour compléter votre propos, mon cher Serge, l'enquête est en cours. Deux groupes d'experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques arriveront en Syrie ce samedi pour faire la lumière sur ce qui s'est passé vraiment le 7 avril dans la ville de Douma, près de Damas. Les enquêteurs ont obtenu l'aval des autorités syriennes qui se sont engagées à les laisser travailler librement.
Voilà, donc vous comprenez très bien que là-dedans, nous sommes en train de jouer avec des mots et ces mots-là ont tout un sens, parce que quand vous avez, excusez-moi, je l'appelle ce fou des États-Unis, qui dit comme quoi il attaquera demain, d'ailleurs il n'a jamais attaqué. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui je peux vous mettre au défi, pas vous, Madame Stéphanie, je mets au défi la communauté internationale pour leur dire qu'ils attaqueront jamais, parce que l'armée russe est présente. Donc vous imaginez s'ils attaquaient alors que
Vous êtes inquiet, Serge, ou pas? Vous êtes en colère, on a bien compris. Est-ce que vous êtes inquiet d'une escalade, hein? C'est ce qu'a dit craindre la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.
Hein. C'est surtout ça. Mais c'est surtout ça. Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la preuve pour. En fait, c'est ça que j'étais en train de vous dire tantôt. C'est pour ça que ils n'ont pas attaqué, parce qu'ils étaient prêts à attaquer. C'est parce que finalement, ils se sont rendus compte que les Russes allaient répondre. C'est pour ça. Et moi, j'ai peur aujourd'hui. C'est toute cette région. Toute cette région est en feu, est à feu. Et donc aujourd'hui, on n'est pas, nous ne sommes plus là pour parler des armes. Il faut maintenant trouver des moyens, c'est-à-dire une solution pacifique, c'est-à-dire réunir tout ce monde-là et dire aujourd'hui, parce que ce qui se passe en Syrie.
Justement, moi, Serge, on va conclure après, mais puisque vous parlez de guerre en Syrie, l'armée syrienne fait aussi la guerre hein, sur son territoire, elle chasse ses rebelles. Donc, voilà, puisque vous en appelez au dialogue, apparemment, le dialogue a échoué depuis longtemps. Hein.
Non, le dialogue n'a pas échoué, c'est ce qu'on nous fait croire. Madame, je vais vous donner un exemple, Madame Stéphanie. Je vous donne un exemple. Vous savez, en France, lorsque les Corses ont pris les armes, lorsque les Basques ont pris les armes, vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde a combattu ces gens-là, on leur a dit, si vous voulez, vous voulez qu'on vous entende, mettez-vous en parti, dans un parti. C'est-à-dire, et en France, moi ce que je ne comprends jamais, quand il s'agit d'autres pays, on leur livre des armes. Mais lorsqu'il s'agit de la France, on demande aux gens de déposer les armes avant de partir en paix. Bon. Mais vous avez vu ça où? C'est pour ça que je vous dis.
Merci en France, Serge.
On nous prend pour des cons. Et moi.
Bon, vous pourriez faire attention, il y a des gens qui vous écoutent. Il y a même peut-être des enfants qui vous écoutent, Serge. Non, mais on a bien compris, Serge, que vous étiez en colère, que vous aviez. Que vous trouviez un peu précipité les accusations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Merci beaucoup, Serge. Excellente journée à vous. Vous voulez intervenir? 01 55 07 58. 0-0. Dans l'ordre d'arrivée, nous avons Samy. Bonjour Samy.
Bonjour Madame Hartmann, c'est Samy Kiedo.
Bonjour Samy Kiedo, merci de votre patience, puisque ça fait 14 minutes que vous patientez. Vous vouliez revenir sur la conférence des donateurs de Genève, hein, boycottée
par le
gouvernement congolais.
Oui, je ne suis pas de pair avec le gouvernement hein, de boycotter cette conférence. Mais je vais dans le même ordre d'idée, parce que, et pourquoi seulement organiser cette conférence aujourd'hui? La souffrance du peuple congolais date avant la guerre, la crise syrienne, n'est-ce pas? Mais c'est seulement aujourd'hui, en Syrie, qu'on essaye de trouver un semblant de résolution, de vouloir résoudre le problème en Syrie. Mais alors qu'elle est déplacée en République du Congo, il y a de cela bien longtemps.
Ah, c'est la plus grave crise, je le disais tout à l'heure, hein, c'est l'une des plus graves crises humanitaires actuellement dans le monde, avec des situations comparables à la Syrie, hein, disait Antonio Guterres, hein, secrétaire général de l'ONU.
Voilà, donc c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec eux. Pas avec la même raison que le gouvernement, parce que le gouvernement...
Oui, mais Samy, si je vous comprends bien, vous n'êtes pas d'accord avec cette conférence, parce que vous dites qu'elle arrive trop tard, mais peut-être trop tard, vaut mieux tard que jamais, non?
Mais vous savez pourquoi trop tard? Parce que maintenant, ce qu'ils veulent, ce fameux donateur, soi-disant donateur, qui se cacheront sous pseudo des ONG, ils veulent maintenant avoir la même mise sur les événements futurs en vue de l'entrée du Congo.
Oh, je vous rassure, Samy, les bailleurs de fonds sont déjà très impliqués en RDC. Merci beaucoup, Samy. J'accélère un peu parce que le temps passe vite. On a passé beaucoup de temps sur les premiers sujets. Il y a Guy, Marcus et Andy qui patientent. Guy va revenir sur la Centrafrique. Guy, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour alors, Guy, cette situation en Centrafrique, excusez-moi Guy, d'ailleurs j'en profite pour vous dire, on avait fait un petit sondage hier sur Twitter hein, en disant quel sujet avait retenu votre attention cette semaine hein, et sur les nombreux votes que nous avons reçus hein, sur le compte Twitter d'Africa numéro 1, eh bien c'est les violences en Centrafrique hein, qui vous ont le plus marqué, 59%. On vous écoute Guy.
Oui, donc par rapport à la Centrafrique, effectivement, je voulais dire ceci. De la manière où ils ont commencé dans le quartier du PK5, et il ne faudrait pas que ça s'arrête, madame. Il faut continuer à désarmer tout le secteur du kilomètre 5 et continuer, c'est-à-dire que désarmer toute la capitale, tous les quartiers de Bangui. Parce que ce qu'ils ont fait au kilomètre 5, cela, si ça arrête à ce niveau, ça va créer un sentiment d'injustice dans la communauté musulmane et je crois que ça sera très grave pour notre pays. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut mobiliser tous les contingents de la MINUSCA et même les FATA pour que faut qu'il y ait désarmement généralisé de la capitale, de Bangui, dans un premier temps. Et après, continuer dans les arrière-pays. Mais dans un premier temps, il faut désarmer, je dis bien désarmer, tout le quartier de Bangui. Vous comprenez? On ne peut pas désarmer que le
PK5, c'est ça.
Le PK5, la majorité musulmane, et puis laisser les autres quartiers comme ça, avec les armes qui...
Et aussi les anti-balakas qui sont armés.
Madame, je dis bien tous les quartiers de Bangui, sans exception. Donc, il faut désarmer tout le monde, parce qu'on ne peut pas désarmer que les musulmans et laisser les autres comme ça, avec les armes à la main, etc. Sachant que les musulmans sont minoritaires en République centrafricaine. Et les conséquences seront graves si les musulmans sont désarmés. Vous comprenez? Donc, moi, je dis bien qu'il faut désarmer toute la capitale, Bangui, et après, continue dans les imprévus. Mais cela mobilise tous les contingents, c'est-à-dire sans exception, tous les contingents de la MINUSCA et même les FACA impliqués, vous comprenez? Pour que la situation soit apaisée, parce qu'on ne peut pas... C'est trop, madame, vous comprenez? Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bon week-end.
Bon week-end à vous aussi, Guy qui en appelle au désarmement de l'ensemble des groupes en Centrafrique, au moins dans la capitale. Bangui, merci beaucoup. Guy, vous voulez réagir à n'importe quelle actualité, réagir à l'actualité centrafricaine, réagir à l'actualité sénégalaise, appelez-nous 01 55 07 58 00. Il reste encore quelques minutes et il nous reste donc le temps d'accueillir Marcus. Marcus, bonjour.
Allô.
Allô Marcus, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, bonjour les auditeurs. Hein.
Bonjour Marcus, vous vouliez revenir.
Oui.
Vous vouliez parler, vous, de la mobilisation contre la statue de Federbe au Sénégal. Hein. Certains ont lancé un collectif, hein. Federbe doit tomber. Alors Federbe, c'est le nom de cet ancien gouverneur.
Effectivement,
hein, de Saint-Louis.
Disons, je soutiens cette analyse parce que si la France immortalise ces hommes, ces grands hommes, l'Afrique doit passer par ce renouveau en destituant tous les symboles de la colonisation et de l'esclavage. C'est une lutte aujourd'hui philosophique qui permettra aux Africains de trouver les paradigmes qui leur permettront de s'émanciper. Tant que les symboles du colonialisme implantés en Afrique, c'est une épée de Damoclès sur la conscience et sur la tête de l'Africain, de l'homme égaux africain.
Ça passe par... c'est une sorte de décolonisation mentale aussi, cher Marcus. On pourrait ajouter à cela, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les avenues de Gaulle du côté de Brazzaville ou même du côté d'Abidjan,
Même tous ces avenues devaient être remplacées par les grands noms africains, à l'image de Marcus Garvey, le premier homme qui a décrété la philosophie du pan-africanisme.
Ouais, mais bon, autant prendre des vrais Africains au lieu d'aller chercher des Afro-Américains, non, Marcus? J'ai beaucoup de respect pour Marcus Garvey. Hein, mais...
Madame, dis-vous bien, les Afro-descendants, c'est eux qui ont créé le mouvement du pan-africanisme,
c'est vrai,
qui a été repris par les penseurs tels que Kwame Nkrumah et tous les autres. Mais je voudrais dire quelque chose. Le symbole de la colonisation que représentait Joséphine de Beauharnais à Fort-de-France sur la place de la Savane a été décapitée. Et je pense qu'il y a un travail à faire aujourd'hui dans un pays dit émergent, un continent d'avenir, où ce symbole doit tomber aussi bien que la dépouille de Savoyon de Braza devait retourner d'où il vient.
Merci.
La lutte, c'est une autre. Je pense que les Africains, les panafricanistes, les vrais panafricanistes, pas ceux qui se disent et qui combattent certaines idéologies des panafricanistes, vous connaissez, et je dirais
doivent soutenir cette initiative. On a bien compris, Marcus, d'autant qu'on va en parler sûrement dans les semaines à venir. Le collectif vient d'être monté. C'est une opération qui va être, qui va être officiellement lancée, hein, je crois, plutôt début juin. On aura l'occasion, effectivement, de revenir sur ces symboles de la colonisation qui demeurent sur le continent et sur les tentatives régulières. Hein, il ne suffit que de voir la une de Valeurs Actuelles de trouver des bienfaits à la colonisation, alors que c'est un crime contre l'humanité. Merci, Marcus. Vous voulez intervenir, il ne nous reste pas beaucoup de minutes, mais si vous n'avez pas grand-chose à dire, vous pouvez composer quand même le 01 55 07 58 00. Il nous reste 5 minutes, on est avec Andy, bonjour.
Oui, bonjour, madame Stéphanie.
Bonjour, monsieur Andy. Vous vouliez parler de la diaspora en Europe en général, alors
oui.
La diaspora africaine, j'imagine.
Oui, justement, de la diaspora africaine. Et je vais parler de la solidarité et de l'entrepreneuriat de la diaspora en Europe.
Et de la solidarité et de là
l'entrepreneuriat.
Ouais, d'accord.
En Europe, parce que je vois que la diaspora subsaharienne n'entreprend pas.
Vous êtes sûr de ça, Andy? On en connaît pas mal pourtant, hein, qui font des trucs d'import-export.
Madame Stéphanie, par rapport au Bangladesh, aux Chinois, aux Indiens, aux Pakistanais, on est très, très, très en retard. Pourtant, nous sommes là avant eux, hein, mais ils sont toujours en avant plus que nous, hein, actuellement. Mm. Vraiment, c'est déplorable. Et nous, on consomme, nos produits que nous, on consomme, ce sont eux qui nous vendent ça. Mm. Imaginez un peu.
C'est ce qu'on se dit souvent, d'ailleurs. Effectivement, la plupart des magasins exotiques dans la capitale et en banlieue ne sont pas tenus par les Africains.
Dans l'Europe en général, hein, c'est tous ces gens qui vendent ça pour nous, mais vraiment, c'est déplorable.
Vous vouliez inciter la diaspora à entreprendre, hein, c'est bien ça.
Entreprendre, mais c'est ça qui fait l'homme, l'entrepreneuriat. Et il agite aussi sur la solidarité aussi, les deux vont ensemble.
Ouais. Intéressant.
Ils sont solidaires, ils entreprennent. Nous, on n'entreprend pas, on n'est pas solidaires.
Ouais. Oui, il y a des gens qui entreprennent. Il y a un Nigérien, une fois, qui m'a dit une très belle phrase sur l'entrepreneuriat en disant « Être entrepreneur, c'est trouver des solutions à des problèmes. » Tout simplement, ça rejoint votre idée de solidarité, Andy. Merci beaucoup, Andy. On a le temps, je vous l'avais dit. Il y a Brice qui a appelé pour réagir sur la situation en Syrie. Brice, bonjour.
Oui, bonjour, madame Hartmann.
Bonjour, monsieur Brice.
Alors, je voulais juste savoir, parce que comme on n'a jamais demandé l'avis des Français sur cette guerre, je voulais au moins donner mon avis. C'est dire que cette guerre-là, si elle a lieu, elle appartient d'abord au gouvernement, à tous les politiciens et aux médias français et occidentaux. Elle n'appartient absolument pas au peuple français. Les conséquences, malheureusement, on les paiera puisqu'on a été silencieux. Qui ne dit mot consent, comme on dit. Et malheureusement, cette guerre injuste, c'est... Oui.
Alors, allez-y, je voulais juste qu'on parle de guerre depuis tout à l'heure. La France n'a jamais envoyé de troupes au sol en Syrie. Elle a accompagné des bombardements. Alors, des troupes officiellement, alors qu'il y ait des forces spéciales, ça ne m'étonnerait guère. Voilà, c'était juste pour préciser. Et pour l'instant que la guerre n'est pas déclenchée, apparemment, les Occidentaux, effectivement, ont brandi cette espèce de ligne rouge, mais ils ont l'air plutôt bien embêtés aujourd'hui. Personne n'a envie d'y aller, apparemment. Hein.
En fait, c'est un dialogue de lâche, en réalité, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes en face qui sont prêtes à les accueillir s'ils veulent vraiment faire la guerre. Mais comme finalement, ils se rendent compte que parler trop vite, ça les embête, en fait. Parce qu'ils peuvent rien faire face aux gens qui sont en face. Vous avez une armée qui est dans un pays qui est une armée loyale. Hein. Je ne dis pas que c'est une bonne armée, mais c'est une armée loyale quand même. Des hommes qui meurent depuis 7 ans, 8 ans, et aidés par les Occidentaux, pas eux, mais leurs adversaires aidés par les Occidentaux, bien entendu avec une pratique de lâche, hein, en dénonçant et en ne disant pas tout, et la population est dans le flou. Nous, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait très bien que nos dirigeants ne sont pas clairs dans cette affaire-là.
Je suis pas sûr que la lâcheté soit seulement du côté des Occidentaux, Brice. Je pense que c'est facile.
La Libye, ils l'ont frappé très très vite. Et bizarrement, là, ils y vont très à reculons. Ouais. Moi, je pense que s'il n'y avait pas les Russes, comme l'a dit l'auditeur qui avait intervenu avant, ils y seraient allés depuis longtemps. Et d'ailleurs, s'ils y vont, je pense que les conséquences, comme j'ai dit, on les paiera. Et on les paiera pendant longtemps parce que c'est nos enfants qui hériteront de cette histoire-là. Et la France est totalement en tort dans cette histoire-là parce que, jusqu'à preuve du contraire, la Syrie, c'est un pays libre et souverain. C'est pas à nous de décider. Et puis la
Chine, vous savez, il y a une fois, il y a dans les années 80, il y a eu ce concept de droit d'ingérence quand vous avez des populations qui sont massives. Il ne faut pas oublier quand même que 80% du territoire syrien a été bombardé, détruit, notamment par les bombardements de l'armée syrienne aussi. Donc voilà, c'est juste. Faut pas donner. Non, Brice, moi je dis, est-ce que finalement on peut. Est-ce que la guerre c'est jamais moral qu'on soit d'un côté ou de l'autre? Voilà, il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté. Non,
c'est toujours provoqué par les mêmes. On voit bien jusqu'à preuve du contraire. Nous, en tout cas, population, bizarrement, on voit pas la même chose que les médias. Ce qu'on voit, c'est que c'est toujours les troupes occidentales des pays.
Mais je sais pas où vous informez.
Qui provoquent des guerres.
C'est intéressant.
Ah bah, désolé. Bon.
Ben oui, non, mais parce que vous et moi, nous sommes pas sur place. Mais c'est intéressant, Brice. Je vous remercie. Il reste 50 secondes sur le répondeur. On n'aura pas le temps de prendre Gaspard. Mais je pense qu'on va reparler de cette situation en Syrie la semaine prochaine. On pourra revenir effectivement. Sur ces menaces de guerre. Merci à tous de votre participation. On arrive à la fin de cette émission. Elle sera rediffusée ce soir à 19h20. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs sur demande du doyen Manu Dibango. Nous parlerons du Cameroun. Je vous propose donc de réagir à l'installation des sénateurs. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à jda@africain.com. Vous retrouverez d'ailleurs Manu et Tito dimanche à partir de 10h sur Africa numéro 1 pour 50 ans de musique africaine et la Mara Boutique. On les embrasse tous les deux. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie Radio Africaine.